Bonjour, c'est Daniel d'Arkang à côté de Bayonne. Très bien, le répondeur, ça me rappelle un certain Daniel. Et ensuite, le mot décroissance. Effectivement, je pense qu'il faut y penser et certainement développer des métiers, des professions utiles pour le respect de l'environnement et peut-être supprimer certaines branches. Bonne journée, merci pour vos émissions que j'écoute assidûment.
Marie des Yvelines. En cette journée de circonstance, je voudrais vous chanter une petite chanson, un petit peu modifiée pour votre émission. J'ai deux amours, la nature et Paris.
Serge de Louvéac dans les Côtes d'Armor. Ben bonjour, l'équipe de la Terre au Carré. J'aurais voulu réagir à une pub IKEA diffusée sur votre antenne depuis quelques jours pour l'achat de sapins de Noël. Ici, en Bretagne intérieure, les sapins de Noël, on connaît bien, si j'ose dire. Plusieurs communes du centre-Bretagne voient se développer depuis pas mal d'années la culture des sapins de Noël. Et aujourd'hui, en nombre d'endroits, ces plantations couvrent des dizaines d'hectares de terres agricoles. On peut se demander comment les responsables politiques, à toute échelle de décision, peuvent admettre un pareil détournement de la fonction des terres agricoles.
La montagne est belle, mais après tout, pourquoi le nier ? J'aime aussi la mer, la forêt et la campagne.
Celles-ci, de fait, ne servent plus à la production de nourriture pour les humains ou pour les animaux d'élevage, mais sont exploitées pour la croissance rapide de sapins qui seront utilisés durant 2 ou 3 semaines en éléments de décoration avant de finir en déchets, tout simplement. Ces terres sont de plus fortement appauvries par une monoculture qui se répète année après année.
Les voir un jour de nouveau respecter.
Cette monoculture, il faut le dire aussi, constitue une atteinte à la biodiversité. Pas de rotation de culture, disparition de la faune du sous-sol. S'ajoute l'emploi réitéré et à forte dose de pesticides, d'engrais chimiques et d'hormones chargés de réguler la croissance de ces sapins dûment calibrés. Plutôt que de recourir à la facilité de l'achat, qui entérine finalement une culture désastreuse, faisons appel à nos mélanges et à nos mains afin de fabriquer nous-mêmes des arbres de Noël. Joyeux Noël donc, sans sapins, mais sous un arbre personnel et original qui laisse les sols en paix. Salut.
Oui, merci, madame Joséphine Baker.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
L'urgence environnementale semble être devenue ces derniers mois un genre cinématographique à part entière, avec plus d'une dizaine de films qui sont sortis cette année sur ce thème. Et aujourd'hui arrive l'un des plus attendus de l'année, son titre Animal. Il met en scène le périple de 2 adolescents et militants écologistes, Bella et Vipulan, qui partent pour un tour du monde afin d'observer les extinctions des espèces animales, le changement climatique, mais aussi la beauté du monde largement menacée par nos activités. L'occasion pour ces deux jeunes de rencontrer des scientifiques, des philosophes, des agriculteurs et des éleveurs pour un véritable voyage initiatique. Animal est signé Cyril Dion et il est aujourd'hui notre invité. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bonjour Vipulan Puvaneshvaran.
Bonjour.
Bienvenue à vous aussi, ravi de vous accueillir. Le film sort donc aujourd'hui. Vous avez déjà rencontré largement le public avec plus de 60 avant-premières dans toute la France. Est-ce qu'il y a une tendance, Cyril Dion, avec la séance depuis ce matin, est-ce que ça démarre plutôt bien ou pas ?
Ça démarre doucement, comme demain.
Comme demain.
Donc demain c'est bon aussi, signe. Ça avait démarré très
Donc c'est très bon signe. Allez, on se retrouve dans un instant avec les questions et les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. Camille Crony, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Avec le méga projet gazier Arctique LNG 2 qui va se faire, mais sans le soutien de l'État français.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Lucie Sarfati avec Clément Berman à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
J'ai pas énormément voyagé depuis que je suis petit.
Et en général, je suis restée en ville. J'aime bien les animaux, mais j'ai pas d'animaux de compagnie, etc. Donc, en général, je les regarde, mais je les touche pas. C'est une approche assez originale et différente.
Je dirais que en fait, ma vie est partagée entre le militantisme et le lycée. C'est comme si j'avais un deuxième boulot en dehors de l'école, quoi.
Je me sens en colère parce que c'est pas nous, adolescents de 16 ans, de devoir porter toute cette responsabilité en quelque sorte.
Voilà, 6 ans après le succès de Demain, donc Cyril Dion, vous revenez sur les écrans avec Animal et Vipulan, puis Vanessa Varane. C'est vous que l'on entendait dans cet extrait. Vous êtes l'un des deux protagonistes de ce film avec Bella Lack, qui est une jeune militante britannique avec laquelle donc vous partez pour un tour du monde. Vous êtes quand même l'adolescence, manque tout le monde en vie, non? Parce que c'est génial ce que vous avez fait là.
Oui, après c'était quand même compliqué parce qu'à côté j'avais mes cours. Ouais. Mais là, elle finit à 6 heures, mais moi j'avais mes cours à côté, donc ouais. C'était quand même très très fatigant.
On sent garçon sérieux quand même, hein, parce qu'on vous offre un billet pour faire un tour du monde et vous dites c'était quand même difficile, j'avais mes cours.
Non, mais évidemment c'était incroyable, mais surtout au vu des rencontres, des discussions, et d'ailleurs les rencontres les plus marquantes pour moi ont été en France et pas dans les autres pays. Mais oui, c'était une expérience incroyable. J'espère que les personnes qui vont voir le film vont ressentir et vivre la même aventure que nous.
Ouais. Cyril Dion, vous venez de faire une vraie tournée de rockstar avec, je le disais, plus de 60 avant-premières dans toute la France. Sur l'échelle de l'épuisement, là, vous êtes à combien, là? Parce qu'en général, c'est, vous êtes au bout du rouleau, là, quasiment, non?
Sur 10, je pense que je suis à 9,8.
Oui, c'est ça. Donc vous êtes épuisé avant même que le film, ait vraiment vécu sa vie.
Parce qu'on a fait le job, quoi. C'est vrai que moi, j'ai été dans une cinquantaine de en France, on a gagné 5 prix dans des festivals, en Espagne, en Belgique, en Italie, à Sarlat. Et l'accueil a été extraordinaire, donc ça a demandé beaucoup d'énergie.
Donc vous êtes tellement fatigué que vous ne profitez pas même du plaisir que le film sorte enfin dans les salles?
Le jour de la sortie, c'est pas forcément un moment où on profite, parce que tout le monde a les yeux rivés sur les chiffres, le contexte du cinéma est pas simple, donc c'est plutôt un moment de tension.
Comment vous cassez l'ambiance, Mathieu?
Mais non, mais je vous pose des questions factuelles.
On a fait la fête lundi soir, on a fait une grande avant-première à Paris, c'était formidable, on a fait un concert avec Sébastien Hogg et Xavier Polycarpe qui ont fait la musique, qui sort aujourd'hui aussi, chez Tôt ou Tard. La BO du film qui est formidable. Mais voilà, aujourd'hui on est concentré.
Quel accueil globalement dans les salles, sincèrement, hein, ce que vous avez ressenti vous
C'est toujours difficile parce que c'est les gens qui viennent, je pense que c'est les gens qui ont envie de voir le film. Ouais. Mais l'accueil était incroyable.
Il y a un gros biais.
On a eu des standing ovations, beaucoup de jeunes en larmes, parce que très bouleversés par Bella Vipulan, s'identifiant beaucoup, nous confiant à quel point ils sont anxieux pour l'avenir, nous confiant que le film leur a donné à la fois de l'énergie, de l'espoir, des pistes, que parfois ça les a bouleversés à des endroits où ils s'y attendaient pas. Ouais. Je me souviens de cette jeune végane qui est venue me voir pour me dire c'est la première fois que j'entends parler des éleveurs. J'ai jamais parlé avec un éleveur. Je comprenais absolument pas quel était leur point de vue. Et là, tout d'un coup, je me dis, ah oui, ok, je vois, je comprends.
Ouais.
Donc je me dis, si on arrive en même temps à faire ça, et en même temps il y a des gens qui ont pu réussir à manger un bout de viande après avoir vu le film, ça veut dire
que la végane n'est plus végane, c'est ça?
Si, elle est toujours végane, mais si on a pu lui faire se poser ce genre de questions et se mettre à la place des agriculteurs, moi je trouve que c'est chouette. Et puis si on a pu faire en sorte que des gens qui mangeaient beaucoup de viande n'en mangent plus, c'est bien aussi.
Vipulan, vous êtes végane vous-même?
Exactement.
Ouais, c'est ce que vous racontez dans le film.
Oui, c'était un peu notre rencontre finalement avec les éleveurs aussi, parce que nous, enfin surtout moi, je suis vraiment le cliché du végane urbain, quoi.
Ouais.
Au début du film.
Vous êtes végane?
Ouais.
Depuis combien de temps?
Depuis 2 ans, je pense, quelque chose comme ça.
Et vous avez, rappelez-nous l'âge que vous avez?
18 ans.
D'accord, vous avez pris la décision tout seul?
Ouais.
Okay. Non, il a été manipulé, comme
Greta. Non, mais ça pourrait être, les parents et vous avez été un peu comme
ça. Non. Je suis d'abord devenu végé il y a 5 ans, puis après ma mère m'a suivi et après je suis devenu vegan.
D'accord.
Ouais. Alors vous avez rencontré un monsieur très sympathique d'ailleurs dans cet élevage de lapins à Nantes qui s'appelle Laurent Hélène et vous avez voulu voir ce qu'était la réalité d'un élevage intensif justement de lapins. On va en écouter un petit extrait puisque c'est vous qui menez l'interview Vipulan.
Il y a combien de lapins dans ce bâtiment?
Là, tu as 760 mères ici et 384 ici là-haut. Donc ça fait 1000 à peu près. Et puis il y a 6500 petits dans la salle.
Du coup, là, ça fait quelle taille par lapin?
Ça équivaut à peu près à la grandeur d'une feuille A4. Pour moi, ils sont pas mal traités, ils sont bien, ils ont un confort, ils ont à manger à volonté, l'ambiance est très bonne. Donc, Je l'accepte. Bon, on pourrait améliorer la chose en faisant des parcs beaucoup plus grands.
Comment vous en êtes arrivé à faire de l'élevage comme ça et pas faire
eh ben de l'élevage c'est une question de imposée par les coopératives. Et c'est les coopératives, ils veulent... Il y a tellement de monde à nourrir dans le monde entier, il faut produire. Ce système-là permet de produire à des rapidités énormes.
Voilà, Laurent Hélène, donc cet éleveur de lapins. Évidemment, Vipulane, ce qui est intéressant, c'est de vous confronter à la réalité et de dialoguer, hein, parce que vous le faites avec plein de gens, des éleveurs qui sont confrontés aux loups, par exemple cet éleveur de lapins. Donc là, vous êtes vraiment dans le concret des choses et vous voyez comment ça fonctionne. Hein.
Oui, totalement. Et on passe un peu par toutes les émotions et en général, les spectateurs nous disent la même chose. C'est-à-dire qu'au début, il y a une forme de haine, de dégoût, parce qu'il y a ce qu'on voit à l'écran, mais il y a aussi tous les autres sens. L'odeur est extrêmement forte. Et puis au fur et à mesure on comprend que ce mec-là, bah justement, il a trois fois rien à la fin du mois et que c'est un allié finalement, lui il a envie de sortir de cet élevage mais il peut pas parce qu'il est pris en étau par les coopératives. Mmh. Et ça montre finalement que tant qu'il y aura de l'aliénation envers les humains, on ne pourra pas sortir des relations aliénantes envers les non-humains.
C'est important d'arrêter de manger de la viande, justement. Vous avez étudié vraiment la question en tant que végane sur l'impact que ça peut avoir sur le climat et puis bien sûr la biodiversité au sens large.
Bah, je pense que j'ai pas le même point de vue maintenant, entre le début du film et maintenant. Oui, au début c'était un peu le truc classique, c'est pas bien pour l'environnement entre guillemets, et y avait aussi les vidéos d'L214, tout ça. Mais maintenant, je dirais que il y a un énorme enjeu aujourd'hui à repenser nos relations aux animaux domestiques. Et quand on écoute le débat autour de ce sujet-là, c'est un peu dualiste et ça fait pas forcément justice à la réalité. C'est-à-dire que d'un côté, le point de vue classique qui est, il n'y a aucun problème aujourd'hui dans nos relations avec les animaux d'élevage et que tout va bien, ou que l'élevage paysan, il n'y a même pas de questionnement forcément intéressant, quoi. Et de l'autre côté, il y a... un courant qui est l'antispécisme historique qui vient d'un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer et qui grosso modo dit qu'il faut arrêter toute forme de relation avec les animaux domestiques, les animaux d'élevage, etc. et que manger de la viande est un acte immoral en tant que tel. Et en réalité, aucune de ces deux approches ne rend réellement justice à la complexité du monde. La question, c'est comment on peut repenser nos relations avec ces animaux pour qu'elles prennent la forme d'égard à la liberté. Et aujourd'hui, du fait qu'on est dans un système où où l'élevage est industrialisé, il y a une industrialisation de la mise à mort qui traite les animaux comme de la simple valeur. Et puis, dès que les animaux naissent, on sait déjà à quel moment on va les tuer. Donc tant qu'on n'aura pas un système avec de la polyculture, du polyélevage, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de consommation de viande de manière générale, on ne pourra pas réellement avoir une société écologique. Donc en soi, je suis toujours végane, mais par contre, si j'ai un ami qui a un poulailler à la campagne et qui me propose des œufs, ça ne me dérange pas de les manger. Ouais.
Cyril Dion, vous pouvez y aller, on peut faire l'interview tout ça avec Vipulane. Absolument.
Très bonne journée à vous.
J'allais vous demander justement, Cyril Dion, quand on entend parler Vipulane, alors on n'a pas forcément l'impression Vipulane, c'est pas méchant contre vous, mais d'entendre un jeune de 18 ans, qu'est-ce qui a déterminé justement que vous vouliez faire ce voyage avec lui et Bella, mais lui en particulier, et comment est-ce que vous avez déterminé justement les différentes étapes et les différents interlocuteurs que vous alliez tous rencontrer?
Ce qui m'a poussé à faire le film au départ, c'est que je me suis mis à faire des grèves pour le climat avec des jeunes de leur âge, et que j'ai été frappé par ce qu'on appelle maintenant l'éco-anxiété, enfin en tout cas cette espèce d'angoisse qu'ils avaient de l'avenir, et cette idée que le futur était complètement bouché. Et je me disais, c'est pas possible, à 16 ans, d'être dans un état pareil. Il faut leur proposer d'autres voies, d'autres horizons. Donc, j'ai choisi Bella et Vipulane parce qu'ils étaient très complémentaires, qu'ils étaient très différents l'un de l'autre. Ils viennent pas du même milieu social, ils sont pas du même pays. Vipulane, comme il dit, est très urbain. Au début, il caressait les animaux du bout des doigts, comme ça. D'ailleurs, Bella se foutait toujours de lui. Alors que Bella, au contraire, elle se faisait la malle le soir pour partir par la fenêtre, pour aller dans Richmond Park, pour voir des élans, pour sentir la nuit autour d'elle, pour entendre les bruits. Elle avait ce côté assez sauvage.
Et comment vous avez travaillé sur, entre guillemets, le scénario? Enfin, je sais pas si on peut dire comme ça, mais...
Au départ, j'ai un côté très scolaire, donc on a été très didactique, c'est-à-dire qu'on a pris les 5 grandes causes de l'extinction et on s'est dit, ok, pour chacune des 5 causes, on va trouver des solutions. Et au bout de quelques semaines, avec mon chef opérateur, Alexandre Léglise, on s'est dit, c'est quand même très très chiant comme perspective. Et ce qui est le plus intéressant dans ce qu'on vit là en ce moment, c'est eux. C'est Bella et Vipulane.
Le regard de cette
génération.
Et
c'est les rencontres qu'ils font. Et c'est le fait qu'ils sont remis en question tout le temps. Et c'est le fait qu'eux-mêmes confrontent les adultes. Donc en fait, on a construit une espèce de trajectoire de sens pour les interroger dans leur militantisme. Donc on s'est dit, bah, eux, ils sont pour l'instant militants d'ordinateur. Ils vont de temps en temps faire des grèves. Mmh. Emmenons-les sur le terrain. Donc on les emmène en Inde. Ils vont ramasser du plastique. Ils se font un peu secouer par cet activiste indien qui leur dit, c'est bien de faire des tweets, mais à un moment, il faudrait peut-être faire des choses concrètes. Parce que là, le plastique, il est là et puis il part dans les océans. Ils le font. Ils se rendent bien compte que c'est pas suffisant. Donc ils se disent, ok, il faut aller plus loin, il faut couper le robinet, il faut changer la loi, ils vont au Parlement européen. Là, ils vont rencontrer Claire Nouvian qui a réussi à faire interdire la pêche en eau profonde et la pêche électrique, mais qui leur explique que c'est un combat infini, qui leur a pris 8 ans, et que ce rapport de force-là, il est conditionné par un système, par un grand récit dans lequel on vit. Et on a essayé de les faire arriver jusque-là, ce qui est le moment de point de bascule avec Éloi Laurent, où on comprend en fait que si on continue à agir dans le cadre du récit actuel, nos actions n'ont pas d'impact. Elles sont toutes petites, elles sont juste des ajustements. Qu'on a besoin d'agir à partir du futur, à partir d'un autre récit du monde. Et ce récit, pour moi, il est déjà dans leur tête, il est déjà dans leurs yeux. Vous l'entendez.
À Vipulane, mais pas à tous les jeunes. Hein,
non. Parler, je parle de Bella et Vipulane. Ouais. Quand vous les entendez parler, ils habitent déjà dans le futur, vraiment.
Allez, on se retrouve dans un instant, ça s'appelle Animal, ça sort aujourd'hui donc sur les écrans. Cyril Dion et Vipulane Puvanès Varane sont nos invités sur France Inter. France, there's things over there that I know you don't know about yet. Listen, I'm so defensive, there are things over there that I do not know about. Yeah, I'm so defensive, I get caught up in the mud. The fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. Sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
On a perdu une attention, une vigilance à l'égard des autres formes de vie. Et c'est lié à une culture qui nous a fait croire qu'on était les seules formes de vie intéressantes. Et que le reste autour, cette prairie, cette forêt, la sapinière, les oiseaux, les fourmis, c'était de la matière bête et méchante. Et le grand enjeu, c'est de se réensauvager nous-mêmes, c'est retrouver le sentiment que le monde vivant nous a fait. C'est pas nous qui l'avons fait. Et on y appartient comme des manières d'être vivant particulières. On est des animaux étranges, mais parmi d'autres. Et il faut que, aussi spontanément que vous êtes capable de distinguer les marques de chaussures de sport, vous soyez capable de reconnaître des insectes, pour que vous soyez aussi fasciné par le comportement d'un oiseau que vous l'êtes par une série télé.
Voilà, il y a quelques perles comme ça tout au long du film. La voix de Baptiste Morisot, philosophe que vous avez rencontré, donc Vipulane puis Vanèse Varane, et bien sûr Cyril Dion pour ce film Animal. Je crois que c'était une des rencontres les plus marquantes pour vous, hein, Vipulane.
On peut dire qu'il est devenu morisotologue même.
Ah ouais, c'est vrai, ouais. Vous avez tout lu, ça y est.
Ouais, presque, je pense.
Ouais. Vous êtes un spécialiste des traces et du pistage.
Non, mais enfin, il est vraiment incroyable. Enfin, je pense que cet extrait est déjà incroyable en lui-même. Mais déjà, il pose pas le problème comme on le pose d'habitude. Lui, il dit qu'on est dans une crise de la sensibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu tout un tas d'affects, de concepts, d'histoires, d'anecdotes pour appréhender les autres formes de vie. Et il dit que pour lutter contre cette crise de la sensibilité, il faut créer une alliance, une nouvelle alliance entre une culture de lutte dont on hérite en grande partie en France. On a eu les grèves pour le climat, Notre-Dame-des-Landes, les Gilets jaunes, les Manifs Adama, plein de trucs différents. Et une nouvelle culture du vivant qui serait une nouvelle attention qu'on conférerait au vivant non humain. Et ça, déjà, poser le problème comme ça, moi, je trouve ça déjà incroyable. Et justement, il parle pas du tout en termes de catégories dualistes, la nature contre la culture, l'humain contre l'environnement. Et ça, c'est une révolution pour moi dans la pensée écologique, parce que ces discours-là, on les entendait pas avant. Et même, en fait, moi, je fais à la fac, je fais un cursus qui, normalement, est censé prendre en compte tous ces enjeux-là, mais c'est encore blablabla pour l'environnement, et c'est encore
comme si c'était extérieur à nous.
Exactement,
en fait.
Comme si c'était de la... Justement, moi, je dis souvent qu'entre le début du film et la fin du film, je suis un peu passé d'un environnementaliste à un écologiste.
Ça veut dire quoi?
L'environnementalisme, pour moi, c'est vouloir protéger une nature qui serait extérieure aux humains, qui serait essentialisée, et qui, pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu, est une adversaire complice de l'idéologie du système économique actuel qui consiste à voir la nature comme une simple matière inerte à exploiter. L'environnementalisme, dans sa manifestation la plus contemporaine, c'est aussi une espèce de hiérarchisation des luttes. On considère que lutter contre le changement climatique et préserver cette nature extérieure, ce serait supérieur aux autres luttes, alors qu'on le voit avec l'éleveur de lapins. Il y a des gens qui meurent de violence au travail, il y a des gens qui meurent de précarité, on le voit en Inde, qui meurent de plein de causes différentes, en fait. Et l'écologie, historiquement, c'est une science qui étudie les relations à l'intérieur du monde vivant et entre le vivant et son milieu de vie. Donc l'écologie, en tant que lutte, c'est une lutte qui vise à repenser et à acter des relations qui seraient nouvelles, qui seraient libérées et qui seraient libératrices entre le vivant non humain et le vivant humain, mais aussi à l'intérieur du vivant humain, ce qui implique de défaire toutes les formes de relations aliénantes pour en construire de nouvelles.
Cyril, donc il y a une certaine maturité chez ces jeunes que vous avez filmés, non, n'est-ce pas?
Non, mais c'était assez stupéfiant. Hein. On a quand même été rencontrer Philippe Descola, donc qui n'est pas le dernier non plus à théoriser. Et à la fin de l'entretien avec Philippe Descola, qui est dans le livre,
oui.
Il me dit merci de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer Béla et Vipulane. Je dis voilà. Théoriquement ça se passe dans l'autre sens, mais je prends, je leur transmets.
Vipulane, vous citez Pierre Bourdieu quand vous discutez avec des copains de votre âge qui sont pas aussi impliqués que vous? Vous leur parlez? Non, mais sérieusement, est-ce que vous leur parlez comme ça ou pas? Parce que c'est pas forcément.
On essaye d'avoir des débats autour de ces sujets-là quand même. Même si, malheureusement, quand on discute de tous ces enjeux-là, les discussions sont assez pauvres.
Alors justement, Yann nous pose une question sur franceinter.fr qui vous est adressée. Alors, il vous tutoie. Tu venais participer aux actions d'Alternatiba Versailles et devant l'apathie des jeunes de ton lycée, tu es parti militer à Paris. Aujourd'hui, constates-tu vraiment que les jeunes agissent en faveur du climat et de la biodiversité?
Ça dépend des jeunes, mais il y a, je dirais, il y a une plus grande prise de conscience chez les jeunes que peut-être que chez d'autres générations, parce que le sujet est plus mis sur la table. Et justement, l'un des seuls impacts des grèves pour le climat, ça a été le changement culturel. Donc oui, je dirais que c'est un peu plus pris en considération, mais il y a encore... on parle souvent de la fracture générationnelle, mais il y a une autre fracture qui est importante, c'est la fracture sociale. Et chez des jeunes qui viennent de milieux très 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 privilégiés, et qui vivent dans des milieux très 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 très, très privilégiés, là, en l'occurrence, mon lycée était à Versailles, donc bon, vraiment... la caricature du milieu privilégié, quoi. C'est vrai que parfois il peut y avoir une forme d'insensibilité, mais en quelque sorte c'est aussi l'héritage de notre culture finalement.
Cyril Dion, sur la question du voyage justement, parce que c'est un tour du monde avant tout ce film, hein, ça vous a posé des questions dès le départ, le fait de l'écrire, imaginer devoir prendre l'avion comme c'est le cas justement, et est-ce que vous auriez pu filmer exactement la même histoire en France uniquement?
On n'aurait pas pu filmer exactement la même histoire, parce que, par exemple, ce qui se passe au Costa Rica, ce réensauvagement, et c'est quand même un pays qui est passé de 20% de couvert forestier à 50%,
ouais.
Ça s'est pas produit en France. On n'aurait pas forcément non plus pu faire rencontrer de la faune sauvage aussi facilement Abella et Vipulane et pouvoir les filmer en même temps, ce qui était un peu notre enjeu, c'était de pouvoir voir leur réaction face à de la faune sauvage. Donc ça, évidemment, au Kenya ou au Costa Rica, c'était beaucoup plus évident de le faire se produire.
La question de l'avion, du déplacement, des émissions de gaz à effet de serre, ça a été un souci pour vous ou pas? Comment vous l'avez réglé finalement?
Évidemment, enfin, moi je prends pas l'avion dans ma vie de tous les jours. Mes enfants qui ont 16 et 13 ans, ils l'ont pris une fois dans leur vie. Vipulane non plus, prend pas l'avion. Ça a été une question qu'on s'est posée avec eux. C'est une des réticences pour lesquelles ils ont réfléchi avant d'accepter de prendre le film. Enfin, de prendre le film, de faire le
de
film.
De l'accepter, ouais.
Mais on s'est quand même rapidement dit que l'impact que le film aurait sur l'ensemble des personnes que ça toucherait dans le monde entier, c'était aussi une des motivations. C'était que le film parle d'un sujet qui est mondial et qui a vocation à toucher des gens dans le monde entier. Alors je sais bien que les Français pensent que tout le monde est passionné par la France, mais pas tant que ça.
Et alors, comment vous arrivez à compenser un peu cette problématique?
L'impact, c'est la compensation, c'est ce que vous dites finalement?
Non, on a fait les deux. C'est-à-dire que on espère que ça aura beaucoup d'impact, comme demain, que ça déclenchera beaucoup d'actions et que cet impact sera plus grand que les quelques billets d'avion qu'on a pris. On a aussi compensé de façon traditionnelle, on va dire,
donc
en plantant des arbres avec Reforest Action et Pure Projet, en choisissant, en faisant de l'agroforesterie, avec des communautés locales qui choisissent où on plante les arbres, quelles essences d'arbres, dans le respect de la diversité des espèces. Et puis on a financé des initiatives de réensauvagement avec l'ASPAS, donc où ils achètent des terrains qu'ils laissent en libre évolution, c'est-à-dire que ils laissent les animaux évoluer, les humains ont le droit de rentrer, mais pas le droit d'exploiter ces endroits. On a financé le Centre Athéna, la Fondation de Jane Goodall, pour essayer, avec l'argent qu'on a levé pour le film, d'avoir aussi un impact positif comme ça.
Et ça s'appelle Animal, ça sort aujourd'hui sur les écrans. Vous restez avec nous jusqu'à 15h.
France Inter. La Terre au carré.
Car à 14h32 presque, il est temps de passer au vert avec vous, Camille Cronier.
Avec la suite du feuilleton Arctic LNG 2. Alors on l'a fait un petit peu plus attractif comme nom. Arctic LNG 2, c'est ce gigantesque projet de Total Energy en Arctique dont je vous ai déjà parlé, mais je laisse l'un des responsables du groupe vous rafraîchir la mémoire avec cette petite vidéo mise en ligne sur le site internet Musique.
Arctic LNG 2, c'est un projet géant de gaz naturel liquéfié de 19,8 millions de tonnes que nous allons développer dans l'Arctique russe.
Un méga terminal de gaz liquéfié destiné à fournir l'Asie à partir de 2023 en utilisant au maximum la route ouverte grâce à la fonte de la banquise.
Nous avons développé et aussi démontré, grâce à une flotte dédiée de méthaniers brise-glace que nous avons conçue, qu'il était possible d'utiliser le passage du Nord-Est pour délivrer, notamment l'été, nos cargaisons de gaz naturel liquéfié le plus rapidement possible en Asie et diviser le temps de trajet par rapport à la route traditionnelle de Suez, par deux.
Ah, la vie est tellement bien faite, merci le réchauffement climatique. Alors si je vous reparle donc d'Arctic LNG 2, c'est parce qu'on a appris hier que les financements étaient bouclés. Total et ses copains russes, Novatek, Suisse, Glencore et allemand Siemens ont obtenu le feu vert pour emprunter 9,5 milliards d'euros sur 15 ans, soit la moitié du montant du projet, le reste venant des dites entreprises elles-mêmes. Et la question en suspens depuis un an pour la partie française, c'était est-ce que l'État va soutenir ce projet, le garantir via sa banque publique d'investissement. Emmanuel Macron avait dit non en off aux ONG juste avant le Congrès mondial de la nature à Marseille en septembre, mais il ne l'avait pas verbalisé tout à fait comme ça dans son discours le jour de l'ouverture.
L'Arctique est aujourd'hui en danger. Et donc je vous le dis très clairement, la France n'attendra pas les lois pour prendre toutes les mesures qu'elle peut prendre pour que rien de la biodiversité dans la région arctique ne puisse être dégradé par des projets économiques porté par des entreprises.
Pas de désengagement catégorique, hein, il ne parlait que des conséquences sur la biodiversité, pas sur le climat. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait été assez sibyllin, lui aussi, le mois dernier, devant les financiers français.
Nous n'accorderons plus de financement aux projets gaziers qui ne respecteront pas rigoureusement et en toute transparence les meilleurs standards environnementaux internationaux.
Bref, pas clair du tout la position de la France, mais ce matin, fin du suspense, Bercy a confirmé en off que la BPI n'était pas dans le montage financier et le cabinet de Bruno Le Maire m'indique qu'aucune communication officielle n'est prévue, histoire aussi peut-être de ne pas trop vexer Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui doit quand même avoir la décision un peu en travers de la gorge, parce que elle envoie un message d'après Anna-Léna Rebaud des Amis de la Terre.
On salue la décision et moi je pense qu'elle est importante dans la mesure où elle crée un précédent. C'est-à-dire que, en fait, indirectement, en ne soutenant pas le projet, la France reconnaît que le gaz est problématique.
Alors qu'il est, Mathieu,
the fossil fuel of the future.
Voilà, c'est écrit là. L'énergie fossile du futur, d'après ce titre, regardé d'une interview de Patrick Pouyanné sur le site de Total il y a 3 semaines. Cela dit, pour revenir à l'État, les ONG ne s'emballent pas pour autant. Et voici pourquoi.
Il faut rester vigilant parce que pour le moment, la politique officielle française, elle permet encore de financer ce type de projet jusqu'en 2035. Donc c'est une première étape, mais nous maintenant, ce qu'on demande de la France, c'est qu'elle révise sa politique pour que ce soit inscrit dans la loi, en fait, que la France ne peut pas soutenir ce type de projet.
Ni maintenant, ni plus jamais, hein, aucun projet fossile comme le recommande l'Agence internationale de l'énergie, si on veut garder une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. D'autant qu'en plus, hein, même si la France ne garantit pas ses projets, elle bosse en parallèle pour inscrire le gaz dans les énergies vertes au niveau européen, donc ça entretient le flou. Et puis les banques tricolores jouent un rôle. Écoutez la fondatrice de Reclaim Finance, Lucie Pinson.
Les banques françaises ont peut-être pris des engagements à ne pas financer tel ou tel projet pétrolier et gazier, mais elles continuent de financer les entreprises qui développent ces projets-là. Et donc les banques françaises continueront de financer de telles aberrations écologiques telles que le projet Arctic LNG 2 tant qu'elles n'arrêteront pas de financer les entreprises qui développent ces projets-là.
Et auxquelles pense-t-elle en particulier ?
Parmi les banques les plus exposées au projet Arctic LNG 2, on va trouver BNP Paribas, mais surtout Crédit Agricole, puisque Crédit Agricole est le premier financeur de Total, mais aussi le premier investisseur de l'entreprise via son gestionnaire d'actifs Amundi.
Voilà, donc c'est un petit peu comme si en fait on avait fermé la porte pour éviter le froid de rentrer en laissant les fenêtres ouvertes. Hein, vous voyez, Arctic LNG 2 étant en plus géant, certes, mais un projet parmi la vingtaine en cours de développement ou dans les radars de Total Energy, principal européen, à s'étendre dans l'Eldorado blanc qui est le Grand Nord pour le gaz aujourd'hui. Mais si la BPI ne met le nez dans aucun des projets à venir, hein, ça ne va quand même pas faciliter la tâche de Total. Donc envoyez malgré tout un signal politique assez fort en matière d'environnement.
Et c'est Camille Passauvert que vous pouvez réécouter sur la page de la Terre au Carré.
Cyril Dion, est-ce que vous avez des nouvelles d'Emmanuel Macron à peu près un an jour pour jour, je pense son tacle à votre égard dans l'interview qu'il avait consacrée à Brut?
Pas tant que ça. Peut-être qu'il a égaré mon numéro.
Donc, pas de nouvelles.
Non, pas du tout de nouvelles.
No news. Ça vous inspire quoi, là, ce non-financement de la France?
Ça m'inspire que, quand j'entendais Camille dire, c'est comme si on fermait la porte et qu'on ouvrait la fenêtre, ça m'inspire cette espèce d'idée de en même temps, en permanence. C'est-à-dire faire croire que tout peut coïncider. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a besoin de prendre des décisions qui sont des vrais choix. Et c'est jamais des vrais choix. À chaque fois qu'on a un tout petit motif de réjouissance, on découvre derrière qu'en réalité, il y a un motif d'insatisfaction qui va avec.
C'est un peu l'effet Convention citoyenne pour le climat, dont vous étiez garant d'ailleurs à la base, et le résultat qui a été jugé par beaucoup très décevant.
En fait, c'est même pas l'effet Convention citoyenne, c'est ce qui présidait à l'idée de la Convention citoyenne. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Emmanuel Macron, la conversation qu'on a eue a été très franche. Je lui ai dit, on sait très bien, et vous et moi, que vous ne prendrez pas les décisions qu'il faudrait prendre pour... limiter le réchauffement climatique et rester en dessous de 1,5 degré. Pour deux raisons. D'abord parce que ça irait à l'encontre d'intérêts économiques que vous défendez, parfois qui vous ont porté au pouvoir. Et deuxièmement parce que, d'un point de vue électoral, ça serait compliqué de prendre des mesures radicales sur, par exemple, le nombre de voitures en circulation, etc.
Alors, pourquoi vous êtes allé en sachant que...
Mais en fait, c'est le contraire. C'est moi qui lui ai proposé de le faire. C'est-à-dire que c'est moi qui lui ai dit, comme vous ne le ferez pas, je pense que la seule solution, c'est de remettre la question... dans l'arène démocratique, que ce soit les Français eux-mêmes qui se fassent une idée du problème et qui fassent des propositions. Et après, on savait qu'il y aurait un bras de fer pour que ces propositions aillent directement ou au Parlement ou au référendum. Moi, ce que j'avais demandé, c'est qu'elles aillent au référendum. C'était ça le but, pour qu'ensuite les Français tranchent par eux-mêmes. Ce qui s'est produit, c'est la triste illustration de ce qu'on voit tout le temps, c'est ce qu'on voit aussi dans Animal, quand on va au Parlement européen, c'est que des intérêts privés se sont mis entre les citoyens de la Convention qui avaient formulé des propositions qui étaient très ambitieuses, qui allaient bien au-delà de ce que les gouvernements avaient proposé ces 30 dernières années, et la population française qui aurait pu trancher, qui aurait pu décider, même de la représentation. Parce que ce qui a été assez dingue dans cette histoire, c'est que non seulement donc des intérêts privés sont venus détricoter et sont venus affaiblir les propositions, mais ensuite les députés eux-mêmes qui voulaient remettre de l'ambition dans ces propositions ont été empêchés de le faire par leur propre gouvernement. Enfin, je veux dire, on marche complètement sur la tête. Pour moi, le problème central, c'est que les intérêts privés, aujourd'hui, orientent la majorité des décisions publiques. C'est pas une démocratie satisfaisante, ça. Et si on ne traite pas ce problème-là, et le problème de notre récit collectif, celui de la croissance, pour moi, on ne fera que du bricolage.
On parlait des banques qui financent les énergies fossiles, Vipulane. Il y a une petite polémique, je crois, autour de la licence que vous faites, hein, parce qu'elle est justement financée au sein de l'Université Paris Sciences et Lettres par BNP Paribas. Ouais. Et il y a eu toute une polémique là-dessus. Ça, c'est un peu dur quand même pour vous, parce que vous qui vous engagez dans l'environnement, voir que c'est BNP, entre autres, qui finance cette licence, ça fait un peu mal quand même. Ouais. Hein.
Bah justement, en fait, le problème, c'est que déjà, en France, il n'y a pas du tout de formation pluridisciplinaire autour de ces questions-là. Et c'était la seule que j'ai trouvée. Mmh. Et sinon, on a interrogé le président de Paris Sciences et Lettres, justement, parce qu'on a un cours de thermodynamique. Il nous a fait un cours sur le changement climatique. Et après, on l'a dit, ah bah tiens, on a lu qu'il y avait des financements de BNP sur la licence. Et il a utilisé exactement l'argumentaire utilisé par le président de Total et par Bercy, etc. pour défendre le gaz naturel.
C'est ça, c'est le futur.
Ouais, et que tous les scénarios prennent en compte le gaz naturel, évidemment. Donc bon.
Donc vous restez quand même.
Vous restez quand même.
Parce que c'est c'était un choix qui m'a questionné, mais ouais, comme c'est la seule formation pluridisciplinaire en France, je suis un peu obligé quoi.
Compliqué. Allez, on se retrouve dans un instant à l'occasion de la sortie d'Animal sur les écrans.
Qu'il voulait pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style un blanc, bas un boubou, on fait tout, appelle-nous Foubou. J'fous les subs que tout bougeait, secoue, j'mets le fire dans ton igloo. J'frappe un coup de jab comme un nunchaku, check si tu connais la ref. Moi Namboka, le monde est fou, t'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas, Kigali jusqu'à Goma, décibels à dose létale, yeah, boum et boum et les baffes. Fais boomer les boomers, maquet. Slash et s'égayer. Fais boomer les boomers. La vie s'éveillait. Fais boomer les boomers. Boomer. Ça y est, mal est fait. Fais boomer les boomers. Mets du sel dans ta vie, tant mieux, bébé. J'mets du pili pili. J'fais danser les jeunes et les vieux. Comme le slap bandabilili. Chez nous, y'a pas de tube de l'été. Non, toute l'année, c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. J'vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du rein jusqu'à la rouzizi. Viens me coller un billet sur le front, paraît que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons, j'fais boum et boum et le caisson. Chanter, danser, fais boumer les boomers. Ok, slash et s'égayer, fais boumer les boomers. La vie s'éveillait, fais boumer les boomers. Vibre fait péter, allumer les briquets, le bal masqué venait fêter. J'construis ma vie, mon œuvre, j'suis dans le BTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse les péter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le stylet capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez, têtez. Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la cool, je me roule, je roucoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y'a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule sans son frein.
Ça s'appelle Boomer, c'est Gaël Faye.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement.
Mathieu Vidard sur France Inter.
Non mais amis auditeurs, il faut quand même vous dire ce qui se passe pendant qu'on écoute des chansons. Parce qu'on s'est remonté les bretelles par nos invités.
On s'est engueulés.
On vient de se faire défoncer par Cyril Dion et Vipoulane.
Vipoulane vient de nous dire, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser le mot environnement. Pourquoi Cyril Dion?
Voilà. Je disais parce que la sémantique nous trahit et elle crée des représentations. L'environnement, ça veut dire ce qui nous environne. C'est comme si tout le reste du monde vivant était un décor autour de nous. Et donc tout ce problème qu'on a de pas arriver à s'inclure dedans, à se dire on est dedans. C'est-à-dire que si on peut boire, si on peut manger, si on peut respirer, c'est parce qu'il y a le monde vivant. C'est ce que disait Baptiste tout à l'heure à Morisot. C'est le monde vivant qui nous a fait. Et ben si on continue à employer ces mots-là, ils continuent à sous-tendre une forme de séparation factice entre eux et nous.
Donc on dit quoi, Vipoulane ?
On peut parler de vivant ou d'écologie, ce qui est beaucoup plus puissant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le vivant, justement, c'est une invention sémantique pour penser dans sur une autre carte du monde, quoi.
Donc, à partir d'aujourd'hui, La Terre au Carré n'est plus le magazine de l'environnement, qu'on soit clair. Ça, c'est pour Valérie Ayesserai qui va devoir refaire tous les jingles. Oui, mais le magazine du vivant.
Vous nous enverrez une facture.
Et on aime bien. Bah, vous allez payer.
Le vivant de la planète.
Le vivant, ce qui est chouette, c'est que quand on dit le vivant,
ça
nous inclut. Et puis, ça fait le pont aussi avec la santé. Ça fait le pont avec le fait que pour rester vivants, tous, nous et le reste des écosystèmes, finalement, on a besoin de traiter la question écologique.
On peut dire la planète quand même, ou ça fait genre on se détache de la planète?
La planète, je sais pas, j'ai un peu du mal avec ce mot, mais...
Ah, moi j'aime bien le vivant, moi je vote
oui,
pour le vivant.
Oui, mais attendez, pardon, mais moi je pense des fois à des formulations, planète, on va expliquer que tel projet dégrade, des fois, alors je disais dégrade l'environnement, bon alors dégrade le vivant, dégrade la planète,
dégrade les écosystèmes, dégrade des
vivants. Le vivant, ça rend le truc plus vivant, quoi.
Non mais vous nous avez mis un bazar, mais c'est pas possible.
L'environnement, c'est un concept, la planète, c'est descriptif, c'est la planète.
Mais non, mais enfin justement, on avait rencontré Philippe Descola et tout le truc nature-culture, ça hérite exactement.
Oh, c'est bon. Nature-culture, Descola,
les grands mots,
tout de suite les références.
Non, mais la culture en soi, c'est l'histoire évolutive du vivant chez l'espèce humaine. C'est ça la culture.
Ouais. Voilà, monsieur a 18 ans.
En attendant, on a des questions sur franceinter.fr. Justement, Nathalie nous demande, elle a une fille de 8 ans, Lilou, très impliquée dans les questions environnementales, les questions du vivant, s'il vous plaît, Nathalie.
Question écologique.
Nathalie demande si elle peut aller voir Animal avec elle. Et Quentin demande, lui, s'il peut emmener ses enfants voir le film. Et
mais non, jamais. N'allez pas voir ce film. Vous allez sortir déprimé.
Après, ils vont parler comme Vipoulane.
Mais à partir de quel âge on peut le voir?
À partir de, je dirais, de 10-11 ans.
Ah, donc Lilou, faudra qu'elle attende un petit peu.
Il y a des images, effectivement, qui sont quand même un peu choc. Et puis, il y a un petit peu de sous-titres, quand même.
Un petit message de Jean-Louis. Bravo, Cyril Dion et ce jeune incroyable. Je vote pour Vipoulane à la prochaine présidentielle.
Vipoulane. C'est pour se venger.
Souvent, il l'a écrit comme ça, pardon. Vipoulane à la prochaine présidentielle pour enfin avoir quelqu'un de sensé à la barre. Vous n'êtes pas intéressé, Vipoulane.
Désolé.
Et un petit message de Marion. Alors Marion nous écrit, Cyril Dion, vous avez interviewé mon père lors de ce voyage. Il vit la moitié de l'année dans le Jura suisse où il est berger de vaches. En voyant la bande-annonce du film, je l'ai vu parler de son métier. C'est la première fois que je le vois s'exprimer ainsi et même en avoir les larmes à l'œil. Comment s'est passée cette rencontre ?
En fait, on a eu un coup de chance incroyable. C'est-à-dire que moi, je connaissais Baptiste Morisot simplement de nom. Donc j'avais lu ses livres, je l'ai appelé. Normalement, il veut pas faire de documentaire. Là, on ne sait pourquoi, il a bien voulu le faire. On lui a dit on voudrait filmer la cohabitation possible entre des loups et des troupeaux. Donc il nous a dit, mais moi je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Landry, qui est formidable, qui est éthologue, qui filme les troupeaux la nuit avec des caméras thermiques pour essayer de comprendre comment les loups interagissent avec à la fois les brebis, les chiens de protection, et pour proposer aux éleveurs des méthodes de protection qui permettent cette cohabitation. Donc on va voir un éleveur de brebis, et puis le lendemain il nous dit, mais je connais aussi quelqu'un qui garde des vaches, et c'est pas la même chose entre les brebis et les vaches. Et puis nous on disait, non mais on a déjà assez Jean-Marc, tu sais, on a déjà plein de trucs là. Non mais quand même, je trouve que c'est intéressant, donc on y va, on va en Suisse.
On va voir le père de Marion.
Et on tombe sur le père de Marion,
qui est berger de vaches,
qui est extrêmement beau, c'est-à-dire qu'il a vraiment une gueule d'acteur. On commence à parler avec lui, on se rend compte qu'il est ultra sensible. Il nous racontait qu'il y avait des loups derrière lui la veille et que sa voisine avait entendu et que lui était dégoûté. En fait, il aurait bien voulu les entendre parce que ça l'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, on commence à entamer cette discussion avec lui. Et en discutant, on finit par lui poser cette question-là parce que Bella avait remarqué que il avait un carnet où il avait le nom de toutes ses vaches et il faisait pas un comptage mécanique. Il allait voir tout le monde. Et donc, elle lui dit, qu'est-ce que ça Ah oui, parce qu'il y a l'extrait, c'est, il faut pas voilà, que je raconte, c'est ça. Hein.
Donc c'est bien pour le teaser, donc on a bien teasé l'extrait, mais alors on va le passer, Cyril Dion. On va entendre donc Claude Leterrier, hein, c'est son nom, avec une gueule, on dirait le grand-père de Heidi, hein, il est vraiment extraordinaire. Et justement, Bella va lui demander ensuite comment il vit le fait de dessiner ses...
Pas trop de spoilers.
Hein. Non, mais on va l'écouter, comment il destine ses vaches justement à l'abattoir.
Alors je les considère, je sais pas, ils sont ce qu'ils sont, et voilà, et je les prends comme ils sont. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacune leur façon de s'occuper de leur veau, leur voilà. Donc.
So, since you have a special relationship with the cows, how do you feel when they're sent to the slaughterhouse for people to eat?
Bon, je le vis mal. Voilà. En résumé, bon, il y a plusieurs aspects. C'est d'une part déjà, je suis pas entre guillemets un viandard, donc c'est très paradoxal le boulot que je fais. Évidemment, ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse. Mais bon, voilà, c'est pour envoyer des bêtes à l'abattoir. Bon, c'est qu'un peu. Voilà, faut que j'assume cette ce paradoxe. Voilà.
Voilà, c'est vraiment un des extraits qui donne la chair de poule et même les larmes aux yeux, parce que bah, il nous confronte aussi à toutes nos contradictions et ça en fait partie, hein, précisément.
Bah nous, ça nous a vraiment bouleversés. Et puis justement, ça vient battre en brèche l'idée que les personnes qui travaillent avec les animaux, notamment des animaux d'élevage, peuvent ne pas avoir de sentiments pour elles. Et ces sentiments-là, ils sont complexes. C'est-à-dire que là, Claude, il pleure quand ses vaches s'en vont à l'abattoir. Il nous a aussi parlé de son cheval avec lequel il a travaillé pendant 25 ans. Il dit quand il est parti à l'écarissage, j'ai mis une semaine à m'en remettre, j'arrivais plus à me lever. Et il nous a dit un truc qui nous a paru fou, nous, c'est que donc c'est un moment qu'on n'a pas pu garder dans le film. Il dit bon, les veaux, ça me fait moins d'effet. Et donc on est un peu là, bah comment ça, les veaux, c'est des bébés, enfin c'est encore pire. Et en fait, les veaux, il ne les connaît pas. C'est-à-dire que les veaux, ils naissent et ils partent tout de suite à l'abattoir, et donc ils ne créent pas de relation avec. C'est ce que me disait aussi un copain vétérinaire qui est venu voir le film. Il me dit. Dire qu'on aime les animaux, ça n'a pas de sens.
Ouais, enfin, comme dire des veaux, on en voit dans le film et dans des abattoirs justement, et la scène est assez insoutenable quand même.
Hein. Ah non, mais dans les abattoirs, c'est terrible. Lui, il les voit pas aller à l'abattoir, il voit juste les veaux partir. Ce qu'il raconte en fait, et ce que je trouve intéressant, c'est que ce qui est touché en lui, c'est la relation qu'il a créée avec ces animaux, avec qui il vit depuis des années.
Ouais, ouais. Il y a d'autres questions, Camille, de la part des auditeurs.
Oui, Jean-Charles nous écrit « Je me pose une question fondamentale sur l'hypothèse que tous les êtres humains deviennent véganes. Comment va-t-on faire si on ne produit plus que des légumes? On va multiplier les besoins en céréales par beaucoup et accentuer les déforestations et cultures intensives. »
Alors déjà, jamais dit que tout le monde devait devenir vegan, et c'est ce que j'ai essayé de développer dans ma longue tirade de tout à l'heure, en parlant de créer de nouvelles relations avec les animaux d'élevage. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, une très très grande partie de la production céréalière est utilisée justement pour nourrir les animaux d'élevage, et notamment produit par la déforestation de l'Amazonie.
On a des chiffres, hein, d'ailleurs, en France, l'ADEME a sorti un rapport. En gros, un Français mange 107 grammes de viande par jour. Ça demande 4300 mètres par personne et par an. Si vous êtes végétarien, c'est un tiers de cette surface. Donc, ça montre bien que quand on nourrit les gens avec les céréales directement et pas les animaux d'élevage pour ensuite nourrir les humains, on prend beaucoup moins d'espace et on déforeste beaucoup moins. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que tout le monde doit devenir vegan pour autant, mais c'est absolument pas un argument.
Vous avez discuté récemment avec Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, le premier syndicat agricole en France pour l'OPS. Ouais. Elle est aussi éleveuse de porc, faut le préciser. Vous avez parlé avec elle de la nécessité justement de baisser la consommation de viande. Et alors elle, ça l'effleure pas du tout apparemment.
Ça lui en touche une sans réveiller l'autre, comme on dirait.
Oh bah c'est joli, ça va.
Ah mais c'est vraiment impossible de le lui faire dire. Et c'était stupéfiant. C'est-à-dire, dis quand même, vous dirigez le plus grand syndicat agricole français. Tous les scientifiques nous le disent. Tous les scientifiques nous disent, si on veut réduire notre impact, à la fois sur le changement climatique et sur la biodiversité, il faut réduire notre consommation de viande. On vous dit pas qu'il faut éradiquer l'élevage, on vous dit pas qu'on est abolitionniste, mais au moins, est-ce que vous êtes capable de reconnaître ça, ce minimum? Je lui ai donné, par exemple, le chiffre que je viens de vous donner, sur l'emprise au sol. On a les mêmes chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre. À aucun moment, elle n'a été en mesure juste de reconnaître le fait qu'il fallait diminuer notre consommation.
On va terminer avec la voix de Bella, parce que comme elle parle en anglais, on l'a pas beaucoup entendu dans les extraits, mais on va l'écouter. C'est la conclusion du film. On peut la passer, Cyril Dion, sans trop le déflorer, ou vous préféreriez qu'on s'en passe? C'est vous qui choisissez, parce que c'est vrai qu'après tout, c'est la conclusion du film. Donc,
ouais, c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que c'est le...
Non, je respecte.
Non, c'est le moment ultime de leur transformation. Bon. Eh ben, donc c'est vrai que si on sait à l'avance comment Bella va être à la fin.
C'est non. Bon, bah, puisque vous avez décidé de diriger cette émission intégralement aujourd'hui,
de changer le nom, etc. Non, mais merci de cette délicatesse et merci de me le demander.
Cyril Dion, qu'est-ce que ça dit justement en ce moment du cinéma, le fait que beaucoup de films, documentaires sortent autour de ces thématiques, parce que là, il y en a eu vraiment beaucoup derniers temps. Et est-ce que vous êtes posé la question aussi de l'envie du public quand vous avez écrit aussi le scénario de Animal?
Je pense que ça dit que ce sujet est en train de devenir central et qu'il investit aussi l'art. C'est vrai pour la littérature. Il y a beaucoup de climate fictions qui commencent à émerger.
Ouais.
Ça me paraît impossible qu'il en soit autrement. Enfin, c'est la même chose avec la question du genre, avec la question de l'égalité homme-femme. Ça a beaucoup investi toutes les fictions aux États-Unis. On a remplacé les héros par des héroïnes. Mmh. On a réécrit des histoires, justement, pour le dernier James Bond a été repassé au fil pour vérifier qu'il n'y avait pas d'horreur machiste dedans. Mmh. Là, de la même façon, je pense que la question écologique investit nos imaginaires. Et quand on a fait Animal, oui. Enfin, moi, je me pose toujours la question du public. Moi, mon but, c'est de faire des films qui soient à la fois vraiment exigeants sur le fond, vraiment cinématographiques, mais qui soient aussi vraiment grand public. Ouais. C'est-à-dire qu'on ait du plaisir à venir les voir comme des films.
Et on a un message justement de Philippe qui nous écrit « J'ai très hâte d'aller voir Animal. Demain m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et m'a fait changer mes comportements. »
Et voilà. Il y a aussi les livres qui sortent, hein, Animal, donc aux éditions Actes Sud. Il y a la version des interviews de Vipulane et de Bella, hein, avec tous les chercheurs. Mm. Donc ça, c'est un autre ouvrage, un cahier militant, toujours chez Actes Sud. Et puis chez Junior, Actes Sud, Cyril Dion, vous signez « Vous êtes des animaux comme nous ». Ça, c'est pour les tout-petits. Hein.
Ouais. Ouais, comme ils peuvent aller voir le film, là, ça peut être à partir de 3-4 ans. Ouais.
Voilà, donc il y a de quoi mettre dans la botte du Père Noël. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
donc allez au cinéma voir Animal qui sort aujourd'hui.
Merci d'avoir supporté
les relous.
Épisode 39.
Voilà, c'est pur, comme tous les mercredis, le podcast et vodcast de France Télévisions avec lequel nous sommes partenaires. Expérience sonore inédite d'immersion dans un milieu de la planète. Vous allez pouvoir essayer d'en deviner l'origine et le contexte. Ouvrez grand les oreilles. Ce que vous entendez a été enregistré par l'audio naturaliste Fernand de Roussen. Alors ça, c'est, on va pas dire ce que c'est, mais peut-être que Vipulane t'a une idée, parce que c'est des animaux que tu as probablement croisés au cours de ton périple.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on a entendu... Bref.
Ça te dit quoi, toi?
Mets le casque, il ferme les yeux, il se concentre.
Ça, c'est très caractéristique, quand même. Quand on a entendu ces animaux une fois, on les oublie pas, en général.
Moi, je ne reconnais absolument pas.
J'ai entendu Mathieu le dire, alors du coup, c'est gâché.
On peut savoir ou pas?
Du coup, là, on
retrouve
une fois.
Non, on ne veut pas le dire. Allez, un indice, continent africain. Un indice. Oh là là.
Des hyènes, hein. On dirait, ça ressemble à des hyènes, non?
Eh ben ça y est, c'est même plus la peine d'aller voir la suite. Elle a donné la réponse, Camille Cronier.
J'ai fait la proposition, je n'ai plus.
Mais c'est la bonne.
Ah bah écoutez,
vous avez gagné.
Pardon.
Bravo.
Allez, écoutez bien le cri des hyènes. Au Kenya, vous en avez croisé peut-être, non?
Non, pas du tout.
J'ai entendu ça autre part, du coup, je me suis dit, putain, j'ai entendu ça, et du coup, j'ai pensé à plein de trucs.
Voilà, ça discute beaucoup hein, chez les hyènes.
Pour une fois que je devine ce que c'est, on va pas trop m'en vouloir, j'espère.
Allez, on a défloré la réponse, mais c'est pas grave. Allez voir quand même le podcast et le podcast parce que vous aurez aussi l'image sur le site de France.tv et c'est en partenariat avec La Terre au Carré.
La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel ? Dès 5 mois après la dernière injection ou infection Covid pour toutes les personnes de 18 ans et plus. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France Inter aime
Le diable n'existe pas, du cinéaste iranien Mohammad Rasoulof. Ours d'or au Festival de Berlin.
حالا شده ازت کاری بخوان بکنی که نباید بکنی.
الان دیگه وظیفه است. نمیتونی نخوای.
En Iran, quatre histoires d'hommes et de femmes qui se battent pour affirmer leur liberté dans un régime despotique. Trouveront-ils la force de désobéir ? Le diable n'existe pas. Actuellement au cinéma, un film France Inter.
Et comme toujours, le répondeur de la Terre au carré.
Oui, vous pouvez appeler 24 heures sur 24, maintenant, c'est gratuit, si pour nous parler du vivant, donc.
Par exemple.
Cyril Dion, numéro, s'il vous plaît.
Alors, le numéro, c'est le 01 56 40 45 45. 01 56 40 45 45.
Voilà, vous êtes engagé à France Inter. Merci beaucoup.